Tout commence là, in utero. Nous venons tous de là. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliers de milliards de cellules. Nous avons tous été des embryons, puis des fœtus. Nous sommes nés et nous sommes devenus des bébés. Quel bébé étiez-vous? Est-ce que vous vous en souvenez? Non. Hélas, non. Nous ne nous souvenons pas de nous bébés. C'est l'une des plus grandes énigmes de la vie. C'est comment d'être un bébé? Je m'appelle Zoé Varier et je vous propose de vous mettre à l'écoute des bébés. Et pour mieux entendre ce qu'ils ont à nous dire, peut-être faudra-t-il que vous fassiez appel à la part de bébé qui est en vous. Après notre première discussion sur les bébés préhistoriques, Claudine Cohen m'a écrit en me disant qu'elle souhaitait me revoir pour préciser certains de ses propos et pour compléter notre premier entretien. Son collègue anthropologue Charles Stepanov, spécialiste des peuples de Sibérie, venait de faire paraître aux éditions La Découverte un livre intitulé « Attachement, enquête sur nos liens au-delà de l'humain ». Dans ce livre, Charles Stepanov consacre un chapitre entier au bébé et à notre rapport au nourrisson. Pour Claudine Cohen, cet ouvrage éclaire d'un jour nouveau les origines de notre espèce et ce qui fait notre humanité.
Charles Stepanov développe la thèse que ce qui nous constitue comme humains, c'est cette capacité de nous attacher à autre chose que des membres de notre propre espèce, à des animaux, à des plantes, même à des pierres, à des éléments du cosmos, et qu'à travers ces attachements, nous nous constituons et nous constituons nos propres relations qui nous constituent comme société, comme groupe social. Alors, parmi ces attachements, au début du livre, il consacre un long chapitre au bébé. Et il explique quelque chose qui est assez étonnant, c'est que, au fond, l'enfant n'est pas tout à fait humain. Le bébé, quand il naît, il est presque autre chose qu'un être humain. Il est tout chauve, il ne parle pas. Quand il se met à bouger, il rampe ou il marche à quatre pattes. C'est comme s'il appartenait à une autre espèce. Et donc, ce que les humains ont appris, depuis qu'ils ont des bébés pas finis, des bébés qu'il faut éduquer pendant de longues périodes, eh bien, ils ont appris à s'attacher à cet enfant comme à quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et d'ailleurs, dans les représentations qu'il décrit, par exemple, des Sibériens, etc., eh bien, l'enfant est souvent considéré comme étant une espèce de porte-parole d'autre chose, des ancêtres, de la divinité, d'un autre monde. Il vient d'un autre monde. Et il parle du côté liminaire de l'enfant. L'enfant est sur le seuil, il n'est pas encore humain. Et il s'agit, à travers tout un tas de pratiques éducatives, justement d'intégrer l'enfant dans le groupe social. Et donc cette technique d'apprivoisement de l'enfant, toutes ces modalités de l'apprivoisement de l'enfant, eh bien, elles ont peut-être même été à l'origine du savoir apprivoiser des animaux. D'ailleurs, il explique que, très probablement, quand ça s'est fait au paléolithique, c'est-à-dire à l'époque où il y avait des chasseurs-cueilleurs, il n'y avait pas d'élevage, etc., eh bien, les petits loups, les bébés loups, ont pu être recueillis dans des groupes humains, mais nourris par le lait des femmes. Il n'y avait pas de vaches à l'époque, il n'y avait pas de domestication des animaux. Et donc, ce sont les femmes qui avaient cette capacité d'intégrer, en quelque sorte, le bébé d'une espèce étrangère à notre propre groupe. Et donc, avec les bébés, c'est la même chose. Donc, le bébé est comme un modèle, une espèce de modèle, de paradigme de l'altérité, du fait de venir d'ailleurs et d'être intégré dans le groupe.
Avez-vous déjà regardé un nouveau-né dans les yeux? Est-ce que vous vous souvenez de son regard? Profond, mystérieux. de ces yeux qui vous happent et qui semblent voir ce que nous, adultes, ne voyons plus. Les nouveau-nés semblent venir de loin, de très loin. Ici, en Occident ou dans les sociétés occidentalisées, nous avons peut-être perdu de vue leur étrangeté et cela se traduit dans nos modes d'éducation. Charles Stepanov compare les relations aux bébés dans les sociétés occidentales et dans les sociétés traditionnelles des peuples de Sibérie qu'il a longuement étudiées.
Et il montre que dans les sociétés occidentales, et c'est seulement, dit-il, 5% de l'humanité, donc c'est vraiment pas quelque chose de très 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 répandu. Nous, on croit que nos modes d'éducation sont universels, mais en fait, ils ne le sont pas. En quoi consiste-t-il ? Bien, il consiste d'abord à parler à l'enfant, valoriser la communication verbale à travers la parole, à s'installer en face de lui, à avoir un rapport à son visage, à ses yeux, avoir le rapport d'échange de regards, et puis donc à lui proposer des jeux, des activités, etc., qui vont développer son imagination, son intelligence, ses goûts, etc. Mais finalement avec des contacts physiques assez limités, assez discontinus, et donc il appelle ça le mode distal. Dans distal, il y a distance, hein. Et c'est quelque chose qui est valorisé dans les classes urbaines diplômées, cette espèce d'accès de l'enfant rapidement au logos, au langage, à la raison, au goût personnel, etc. Et donc, il y a cette façon de faire qui est en quelque sorte donnée pour universelle, mais qui est très propre à nos cultures et qui est différente de celle qu'on peut observer ailleurs, qui a un tout autre rapport avec l'enfant. On ne le regarde pas dans les yeux. On le porte sur le dos, tout près du corps. On a de très rares occasions de dialogue et d'échange de regards avec lui, mais on a un contact physique permanent avec l'enfant. Ce qu'il appelle le mode proximal, hein, la proximité. Et ce qui est privilégié, c'est donc le contact tactile, c'est le contact gustatif, la nourriture, le contact olfactif, on se renifle, hein, on sent les odeurs. Et l'enfant ainsi porté, ainsi intégré dans les activités quotidiennes, participe de ces activités collectives et peu à peu est en quelque sorte apprivoisé au groupe et aux façons de faire et d'être du groupe, à travers des modes de communication plutôt non-verbaux. Il va même jusqu'à dire que peut-être cette différence d'attitude vis-à-vis des bébés a pu nourrir des différences plus fondamentales, hein, de mode d'être social et même économique, hein, cet individualisme qui caractérise nos sociétés, qui peut être à la base des modes de production qui sont les nôtres.
Le rapport que nous avons au bébé aurait-il déterminé en partie les modes de société dans lesquels nous vivons? Les bébés préhistoriques nous ont rendus humains parce que nous les avons reconnus autres, comme venus d'ailleurs, comme une autre espèce, et que nous les avons accueillis comme tels et humanisés. C'est cette reconnaissance et cette ouverture à l'altérité qui nous a rendus humains. C'est l'idée que développe Charles Stepanov dans son livre et qui a tant plu à Claudine Cohen. Charles Stepanov est anthropologue, spécialiste des peuples autochtones de Sibérie.
Et il dit plus largement que les sociétés humaines sont des communautés hybrides, hybrides au sens où elles intègrent toutes sortes d'autres éléments que des hommes adultes et des femmes adultes, y compris des animaux, des bébés. Et il dit que nous sommes polyglottes, hein, parce que nous parlons le pidgin de chacune de ces espèces. Hein. Nous nous adressons aux chats, aux chiens, aux chevaux, aux bébés, avec des langages différents.
C'est ça, donc le bébé vraiment à part, comme un être pas humain. Quand il naît, il ne serait pas humain.
Mais il doit être humanisé, évidemment. Voilà. Hein, on ne peut pas le laisser à part. Voilà. Mais on le respecte comme étant venant d'ailleurs, hein, comme étant pas tout à fait humain. D'ailleurs, on ne lui donne pas un nom tout de suite. On attend plusieurs semaines avant de lui donner un nom. Il est encore sur le seuil de l'humanité. Et il peut être assimilé à ces espèces un peu étrangères que nous assimilons à nos propres groupes.
Et notre humanité, ce serait d'être capable de parler ces langues étrangères et d'humaniser les bébés et d'avoir des attachements avec toutes ces espèces étrangères.
Absolument, absolument. Étrangères. Alors, il y a évidemment les animaux de compagnie qu'on materne, qu'on tient avec nous, mais il y a aussi tous les animaux d'élevage, il y a aussi les plantes, il y a aussi la chasse, enfin, il y a toutes sortes de pratiques qui, donc, considèrent l'autre et en l'intégrant, d'une certaine façon, à nos propres communautés. Et il explique, Stepanov, que c'est à travers cela que se constituent les sociétés mêmes. C'est comme ça que nous apprenons à l'intérieur même du groupe l'échange, la distribution des rôles, toutes les pratiques sociales sont en quelque sorte dérivées de ce rapport à l'altérité et de cette assimilation de l'altérité. Et il dit que les sociétés changent à travers les changements qu'elles opèrent sur leur rapport aux autres espèces. Nous avons, nous, dans nos sociétés actuelles, presque complètement rompu ce rapport à l'extérieur, ce rapport d'attachement à des espèces autres. Bon, on a des animaux familiers, par exemple, on a des bébés, mais on a rompu toutes les attachements très forts avec les autres espèces animales, avec les plantes, avec tout le monde de la nature qui nous entoure. Et peut-être que ces sociétés traditionnelles pourraient être pour nous un modèle pour reconsidérer, peut-être pas pour revenir aux chasseurs-cueilleurs ou au début du néolithique, mais pour reconsidérer notre rapport à la nature.
Notre humanité serait donc une humanité faite d'abord et avant tout de liens et d'attachements aux non-humains, aux autres espèces, bébés, animaux, mais aussi attachements aux arbres, aux plantes, aux rivières, aux montagnes et même à l'invisible. C'est notre capacité à nous ouvrir à l'altérité et à nouer des liens qui fait de nous des humains. Et notre rapport au bébé serait le paradigme de ces attachements. D'ailleurs, Claudine Cohen m'explique que selon certaines hypothèses scientifiques, les humains auraient conservé les traits de bébés non humains.
Si vous comparez un homme et un chimpanzé, un bébé chimpanzé et un homme, eh bien, vous voyez que l'homme a conservé les traits du bébé chimpanzé. Il a conservé le crâne gros par rapport au corps, il a conservé le front droit, il a conservé la face réduite sous le crâne, et quand il devient adulte, il perd ses caractères.
Le chimpanzé.
Il a un prognathisme, il y a le crâne qui se met à l'arrière de la face, et donc on a une toute autre morphologie. Mais chez l'humain, eh bien, c'est comme si un bébé chimpanzé était resté, avait gardé ses traits d'enfant et était devenu adulte sous les traits de l'enfant.
D'accord.
C'est ça la néoténie. C'est la conservation chez l'adulte des traits du jeune.
Et pour nous, ce qui nous intéresse, des traits du bébé chimpanzé chez l'adulte homme. Et là, les deux photos que vous me montrez, effectivement, il y a une photo d'un bébé chimpanzé qui a des traits qui ressemblent à ceux des humains.
Oui, et pas seulement des traits physiques, mais aussi des traits psychologiques. Parce que le goût du jeu, la curiosité, la soif d'apprendre sont des traits infantiles que nous conservons toute notre vie. Donc c'est parce que nous sommes restés bébés que nous sommes des adultes intelligents, curieux.
Alors ça, c'est vraiment joli. C'est parce que nous sommes restés des bébés chimpanzés, en plus.
Non, nous sommes maintenant des bébés, nous sommes maintenant humains, mais c'est le bébé chimpanzé qui a donc...
Ça, c'est trop joli.
Voilà.
Quand Claudine Cohen m'a montré ses dessins de visages de bébés chimpanzés et de visages humains, j'ai tout de suite vu à quel point nous nous ressemblons. Je n'avais encore jamais entendu parler de la néoténie humaine.
La néoténie, c'est un concept qui a été inventé, en tout cas construit par Bolk, qui était un embryologiste dans les années 1920. Et la néoténie, elle désigne la conservation chez l'adulte des traits du jeune, voire même des traits du fœtus. Et puis, la capacité pour l'individu ainsi structuré, de se reproduire et de reproduire ses traits qu'il a acquis par la néoténie. Et donc, si vous voulez, quand on pense à l'évolution, on se figure souvent l'évolution en termes darwiniens comme quelque chose de graduel, de lent, par la sélection naturelle, ça avance petit à petit. Alors que la néoténie, ça peut être un phénomène assez rapide, assez brutal, puisque tout d'un coup, un animal qui avait, en se développant, qui avait une face allongée, qui avait le crâne dans le prolongement de la colonne vertébrale, etc., eh bien, tout d'un coup, en préservant les caractères du jeune, eh bien, il va se trouver modifié dans sa structure physique. C'est Stephen Jay Gould, le grand spécialiste d'évolution, qui a beaucoup mis l'accent là-dessus. Dans son livre, il recherche justement des processus non pas graduels, mais rapides. Et il appelle ça une hétérochronie du développement. C'est-à-dire que c'est un développement qui n'est pas linéaire, mais qui se fait par saut. Moi, c'est pour ça que je me suis intéressée aussi à la néoténie, c'est à travers Gould et ses idées sur l'évolution. Donc, si l'homme est un animal néoténique, ça veut dire qu'il a conservé les traits d'un jeune primate, voire d'un fœtus de singe. Et ça, ça se voit très bien quand on regarde le profil d'un jeune chimpanzé et qu'on le compare avec celui d'un chimpanzé adulte d'une part et d'autre part avec un profil humain adulte. Et là, on se rend compte qu'il y a une très grande ressemblance entre ce petit singe qui a un gros cerveau par rapport à son corps, qui a un front plat et droit, qui a des gros yeux sur le devant de la face, qui a une face courte sous le crâne, qui a une tête qui est posée sur la colonne vertébrale, pour ça il peut se tenir un peu droit. Et puis tout ça va se modifier chez l'adulte du singe, mais il semble que l'homme a conservé ses traits. Donc il a gardé l'apparence et la structure anatomique du jeune singe.
Quand on dit jeune, ça veut dire enfant, bébé ?
Du bébé, du petit, du bébé singe. Du bébé singe. Et puis, dans ces quatre premières années, les chimpanzés se développent dans les quatre premières années. Alors, non seulement les traits physiques, mais aussi les traits psychologiques. C'est-à-dire que le bébé se caractérise par le goût du jeu, par le goût d'apprendre, par la curiosité. Et ce sont des traits que les humains ont conservés tout au long de leur vie. C'est-à-dire que c'est comme si on était resté des enfants. On était resté des enfants depuis notre naissance, bien sûr, où ces traits sont présents, mais aussi jusqu'à un âge considérable, parce qu'on peut continuer à être curieux, à aimer jouer, à aimer apprendre jusque très tard. Donc nous serions des chimpanzés qui n'auraient pas grandi. Nous aurions cette rétention des traits juvéniles, qui se marque aussi par un développement assez faible de la musculature, qui pourrait expliquer aussi pourquoi nous avons développé à l'extérieur de nous des outils, toute une panoplie d'objets, toute la technique qui pallie en quelque sorte à ce manque de force.
Voilà. Formidable. Donc, nous serions des bébés, nous humains, des bébés chimpanzés qui n'auraient pas grandi. Nous Exactement. Avons les traits et nous serions peut-être restés, nous sommes devenus humains peut-être parce que nous sommes restés des bébés.
Exactement. Nous sommes humains parce que nous avons conservé les traits juvéniles. Alors, les traits juvéniles ou les traits fœtaux qui sont communs à beaucoup d'espèces de primates, mais donc qui se seraient perpétués dans notre propre développement. Voilà.
Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est une magnifique idée. Magnifique.
Oui, c'est très très beau, c'est très fort. C'est très très fort et c'est étonnant que ça n'ait pas été tellement mis en avant depuis les années 1920. Bon, Gould a un petit peu repris ça dans les années 70 et maintenant les anthropologues, les paléontologues, tout ça reprennent cette idée parce qu'elle est effectivement lumineuse.
Est-ce que nous sommes devenus humains ? Parce que nous sommes restés des bébés ? Est-ce que nous sommes devenus humains parce que nous avons gardé les traits des bébés chimpanzés ? J'avoue avoir un malin plaisir à clore cette série de podcasts sur les bébés avec cette magnifique pirouette. Décidément, les bébés sont une source inépuisable de découvertes, de surprises et de joie. Merci les bébés.
Les super pouvoirs des bébés est un podcast documenté par Anna Massardier, monté par Karen Dehay, mixé par Basile Bocquer et Baptiste Collion, réalisé par Flora Bernard et écrit par Zoé Varier. Les super pouvoirs des bébés est un podcast original de France Inter.